Olivier Delacroix sur Europe 1.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1, nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 16h, je suis Olivier Delacroix et je suis ravi de vous retrouver comme chaque jour pendant une heure en compagnie de ma camarade Ombline. Comment allez-vous aujourd'hui ma chère ?
Ça va bien, bonjour Olivier, bonjour à tous.
Pendant cette heure, comme vous le savez, nous partageons vos expériences de vie, qu'elles soient agréables ou plus difficiles, car votre vécu nous intéresse. Certains rythment leur quotidien pour celui des autres. Ils sont pompiers volontaires, bénévoles, aides-soignants, ils ont créé leurs propres associations. Ils aident, accompagnent et sont auprès des personnes qui en ont besoin. Cette année, le prix Solidarité version Fémina, dont nous sommes partenaires, a une nouvelle fois mis en lumière l'action d'associations et l'engagement de celles qui les incarnent en récompensant plusieurs d'entre elles. Mais d'où vient cet engagement ? Provient-il de l'éducation, de nos valeurs ou d'événements de la vie ? S'engager pour les autres, est-ce une vocation ? C'est notre sujet d'aujourd'hui sur Europe 1. Nous attendons vos témoignages, vos histoires. Nous sommes là, comme chaque jour, pour vous écouter.
Et comme chaque jour, vous composez le 39-21. C'est le numéro du standard d'Europe 1. 39-21, 50 centimes la minute. Comme chaque jour, on vous lit sur Twitter, hashtag Europe 1 et via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1.
15h, 16h, partageons nos expériences de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous accueillons Louisa au 39-21. Bonjour Louisa.
Bonjour Olivier.
Bonjour, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous ?
Je vous appelle de Nantes et j'ai 47 ans.
D'accord. Alors, on se connaît un petit peu Louisa, il me semble que nous nous sommes croisés déjà tous les deux, non ?
Oui, tout à fait. Tout bon. À fait, avec la présentation du jury. Lors du prix Fémina 2018.
Exactement. Alors, on va en parler dans quelques instants. On va d'abord résumer votre histoire, Louisa. En 2009, vous avez commencé à faire un constat dans votre ville. De plus en plus de personnes étaient isolées, des jeunes de plus en plus déscolarisés, la délinquance augmentait. Qu'est-ce que cela a provoqué chez vous ? Que ressentiez-vous en voyant cela ?
Tout d'abord, ce que j'ai ressenti en tout premier, c'est de l'incompréhension. Mmh. Je me suis beaucoup posé des questions en me demandant qu'est-ce qui a fait qu'on en arrive là. Et pourquoi tant de jeunes qui sont plutôt portés normalement dans l'espoir et la réussite sont voués à être là, à rien faire, à ne pas avoir d'avenir, ne pas construire leur avenir. Mmh. Donc ça m'a beaucoup... je me suis beaucoup posé des questions.
Mmh. Et alors, se poser des questions, c'est une chose, mais agir, c'en est une autre. Comment est-ce que elle est venue, cette envie d'agir au départ ?
J'ai toujours pensé que s'il y avait des situations comme ça qui se dégradaient, c'est qu'il y avait des personnes qui n'arrivaient pas justement à aller au-delà, qui n'arrivaient pas à s'en sortir, qui n'avaient pas forcément tous les éléments pour s'en sortir. De l'autre côté, j'ai pensé aussi qu'il y avait une institution, un État qui n'était pas vraiment à la hauteur, mais à la compréhension des situations des personnes. Mmh. Et du coup, c'est par contact avec les gens que j'ai compris que les gens avaient besoin d'être portés. Mmh. D'être portés au-delà, d'avoir une locomotive qui les aiderait à s'en sortir et qui les aiderait à porter leur parole.
En vous écoutant, Louisa, on a l'impression que vous parlez des jeunes comme des institutions, en disant, je traduis un petit peu ce que j'entends, mais que d'un côté comme de l'autre, on manquait un petit peu d'outils et qu'on ne savait pas comment aller finalement les uns vers les autres. Est-ce que c'est un peu ça ?
On est face à un public quand même qui ne comprend pas l'institution et l'institution qui ne comprend pas un public. Mmh. Donc, il fallait à tout prix réconcilier les deux. Mmh. C'était urgent.
C'était votre objectif, ça ?
Mon objectif, tout à fait, c'est de faire évoluer les mentalités des personnes qui étaient en rupture avec ces institutions, ouais. Mais autant aussi du côté des institutions qui devaient aussi évoluer leur mentalité pour que justement la connexion puisse se faire. Mmh. Et pour ça, il fallait aussi aller remonter des choses, il fallait revendiquer des choses, il fallait aussi avoir l'audace d'aller dire aussi qu'il y a certaines choses qui ne correspondent plus ou pas, mmh. Et qu'il était primordial de changer les choses pour que les choses puissent avancer, parce qu'on était dans une situation où rien n'avançait et où les choses ne faisaient que se dégrader au fur et à mesure.
Mmh. Est-ce que vous étiez quelqu'un d'engagé déjà ?
J'ai toujours été engagée, plus ou moins, on va dire. Mmh. J'ai un côté militantisme en moi.
Ouais.
Alors, je ne sais pas d'où ça vient, je ne peux pas vous dire. Mais j'ai toujours eu l'envie d'aider l'autre. Ça depuis que je suis toute jeune fille. Et à mon arrivée dans mon quartier, la première chose que j'ai fait, c'est de m'engager en tant que bénévole. Donc j'ai toujours eu vouloir donner ce coup de main pour aider les gens qui n'arrivaient pas à s'en sortir ou les gens qui n'arrivaient pas à retrouver la force pour pouvoir s'en sortir. Mmh. Et du coup, je me suis engagée dès le départ, dès que je suis arrivée dans ce quartier, en fait.
En 2011, vous avez créé votre propre association, hein, Casse ta routine. Pourquoi avoir eu envie de passer du collectif, hein, où vous participiez, à l'association Casse ta routine ?
Alors, c'est vrai qu'en 2011, j'ai fait un constat que j'ai fait remonter. Je me suis aperçue qu'il y avait une nécessité à créer quelque chose entre les institutions et ces habitants-là qui étaient de plus en plus éloignés. Mmh. Alors quand je parle des habitants, c'est toutes catégories confondues,
ouais.
Que ce soit adultes, mères de famille ou jeunes. Et du coup, j'ai trouvé qu'il était important d'aider ces gens à retrouver leur place, parce que les gens s'éloignent au fur et à mesure. Et j'avais envie qu'ils redeviennent acteurs de leur quartier, c'est-à-dire de l'endroit où ils vivent, se sentir bien. Et essayer de s'investir aussi pour pouvoir et faire évoluer les choses. Et j'avais envie de les convaincre en leur disant tout simplement que les choses pouvaient avancer qu'avec eux, que si eux prenaient les choses en main, et qu'il ne fallait pas attendre des institutions.
Ça n'a pas dû être facile, ça, parce que lorsqu'on va dans ces quartiers, comme moi j'ai l'habitude d'y aller aussi, on sent dans cette population ce sentiment de... Voilà, on nous a laissé tomber, on est un peu les oubliés de la République et finalement on n'en a rien à faire de nous. Ça n'a pas dû être facile régénérer les forces vives chez ces gens-là.
Bien sûr, tout à fait. J'étais face à des personnes qui ne croyaient plus en rien, hein, qui ne croient plus en politique, qui ne croient plus aux institutions, qui ne croient plus à plein de choses. Face à des jeunes de plus en plus se retrancher sur eux-mêmes, marginalisés, qui n'ont plus d'identité. Ça aussi, on le retrouve beaucoup dans les quartiers. Et il a fallu recréer une confiance. C'est beaucoup d'énergie, c'est sûr, mais il a fallu recréer l'envie dans ces personnes-là. Et je pense que c'est pour ça que, quelque part, quand on est militante, on est un peu une locomotive qui essaie de ramener les gens au fur et à mesure, avec le temps, pour essayer de leur... Déjà, qu'ils retrouvent confiance à eux et leur dire, justement, ils sont capables, ils n'ont pas à se culpabiliser sur la situation dans laquelle ils sont. Et c'est que ce n'est pas parce qu'ils sont dans un quartier qu'ils ne peuvent pas s'en sortir.
Mmh.
Et ça, c'était sans cesse. Et ça a pris au fur et à mesure.
Et justement, on va continuer à en parler dans quelques instants. On va voir que cette étincelle, vous avez su la créer chez plusieurs d'entre eux, hein, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes ou plus vieux, et que vous avez su motiver ces personnes et leur faire prendre conscience qu'elles existaient, qu'elles étaient là, qu'elles avaient un rôle à jouer, elles aussi, dans leur quartier. Et on continue, Louisa, à en parler dans quelques instants.
Europe 1.
S'engager pour les autres, c'est votre vocation. Vous témoignez à l'antenne d'Europe 1. Vous venez nous dire pourquoi vous avez décidé de donner du temps, votre temps, aux autres. 39-21. Vous pouvez aussi nous écrire et nous poser vos questions via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. Un jour, vous avez eu envie d'une certaine manière d'être utile. Vous vous êtes engagé pour aider les autres. Qu'est-ce que ça vous apporte ? Que représente cet engagement au quotidien ? Vous nous racontez votre histoire au 39-21.
Et nous sommes toujours en ligne avec Louisa qui nous expliquait que devant le constat de tous ses habitants qui pensaient être les oubliés, eh bien qu'elle avait agi et su déclencher cette étincelle chez certains d'entre eux qui aujourd'hui agissent à ses côtés. Louisa, vous avez dû arrêter votre travail à cause de votre engagement ?
Oui, au fur et à mesure. C'est vrai que mon engagement a emporté sur ma vie professionnelle.
Mmh.
Parce que quand on est engagé, c'est plus fort, en fait. C'est quelque chose de fort. Et plus on est engagé, plus on a l'impression qu'on a été utile. Puis on a l'impression qu'il y a des gens qui par votre aide ou grâce à votre aide, ont pu s'en sortir. On s'est dit, quelque part, on ne se doit pas d'arrêter. Et puis avec les besoins qu'il y a dans un quartier, c'est-à-dire un quartier où il y a où règne la précarité, la délinquance et l'isolement,
mmh.
On qu'on peut pas arrêter. On peut pas arrêter. Mmh. On est tout le temps prise par et préoccupée par ces problématiques-là.
J'entends que c'est devenu une évidence pour vous de ne plus que vous consacrez qu'à votre association et j'imagine qu'aider les autres, ça a donné un sens supplémentaire à votre vie. Justement, qu'est-ce que cela vous procure d'aider les autres et de voir que vos efforts eh bien, portent leurs fruits ?
Tout d'abord, je pense aider les autres et aussi l'envie de donner l'envie aussi aux autres déjà de s'en sortir, mais après aussi de faire attention à l'autre et à leur tour aider les autres. C'est lancer un élan de solidarité, réanimer la solidarité. Mm-hmm. Parce que quand on est isolé, quand on est dans la précarité, on pense déjà même pas à soi-même, qu'on ne peut pas penser aux autres. Et du coup, le fait que des personnes aient un lueur d'espoir et s'en sortent, ça leur donne aussi l'envie aussi de s'investir et d'aider les autres. Et ce que ça m'apporte, c'est je transmets des valeurs. Mmh. Je pense que c'est dans cette société, on en a beaucoup besoin. À l'heure où on est dans des phases d'individualisme, mmh. Je pense qu'on en a besoin, transmettre les valeurs. Et le fait d'aider les autres, je pense que de voir une personne ne serait-ce que sourire, ça apporte beaucoup. Ça apporte beaucoup. On sait qu'on a fait quelque chose
d'important
de bien dans sa journée. D'important.
Alors, j'ai encore deux questions très importantes à vous poser. La première, c'est que retenez-vous parmi tout ce que vous avez fait, parmi toutes vos actions, qu'est-ce qui vous a rendu le plus heureuse ? Est-ce que c'est un jeune que vous avez sorti du mauvais chemin ? Qu'est-ce qui retient votre attention depuis que vous militez ?
Oula, une question assez délicate parce que j'ai
il doit y en avoir beaucoup, je sais, mais
beaucoup de monde. C'est vrai que ça peut être un bel exemple. C'est une personne qui a fait 25 ans de prison,
oui.
qui m'a été envoyée par sa conseillère pénitentiaire et qui savait pas comment il pouvait se réinsérer dans la société. Il était sorti une fois, il a raté sa réinsertion, il a replongé, mm-hmm. et du coup. Par le biais du hasard, elle a découvert un article sur notre association et elle m'a téléphoné en me disant « Je pense que vous êtes la bonne personne pour lui, parce que pour lui redonner confiance, pour le motiver, pour lui donner envie d'exister. Parce que pour une personne qui est incarcérée depuis longtemps, être replongée dans une société, c'est brutal. Mm-hmm. Elle a du mal parce qu'elle se retrouve seule finalement. » Et parfois, pour être rassurée, elle retourne dans un cocon qui est la prison. Mmh. Et cette personne-là, je l'ai accueillie tout d'abord. Elle était sous bracelet. Elle a fait un petit moment ici. Elle a passé son temps à faire du bénévolat. Elle rentrait le soir en prison.
Ouais.
Et à la force du temps, il a été libéré. Et au jour d'aujourd'hui, je suis contente parce que c'est une personne qui est pleinement heureuse.
Ouais.
Qui est vraiment réinsérée et qui, à son tour, aide tous les jeunes qui sont en difficulté, les SDF et les gens qui sont à la rue, mm-hmm. pour les aider, pour leur donner envie, de leur donner le courage, tout ce que lui a cherché quand à un moment il en avait besoin.
Mm-hmm. Et parle sûrement aux gens de ce qu'est la prison et à voir deux, trois trucs pour justement leur éviter d'y aller dans cette prison. Vous avez gagné le prix Coup de cœur européen dans le cadre du prix Solidarité version Femina grâce à votre engagement. Qu'avez-vous ressenti en recevant ce prix ?
Tout d'abord, j'ai été vraiment émue. J'ai ressenti une fierté pour mon quartier.
Ouais.
Ce prix, vraiment, je l'ai pensé pour le quartier, pour les gens qui m'ont fait confiance, pour les gens à qui j'ai apporté mon aide, pour les gens qui me soutiennent et pour ces gens qui, tous les jours, me disent « On a besoin de toi, il faut que tu continues ». Et voilà, donc ça a valorisé le travail que j'ai mis depuis plus de 20 ans.
Mmh.
Et aussi, c'est l'envie de dire, voilà, finalement, on reconnaît le travail, un travail qui est utile sur tout ça.
Rappelez-moi le nom du quartier et la ville.
Alors, je suis à Nantes, dans les quartiers nord de Nantes.
Dans les quartiers nord de Nantes. Et bien, pour tous les gens des quartiers nord de Nantes, voilà, un coucou de nous tous d'ici, Europe 1. Et puis, spécialement à vous, Louisa, pour votre action et à tous ceux qui vous entourent aussi au quotidien. Car je sais que vous n'êtes pas sans parler de votre entourage, de tous ceux qui participent à Casta Routine pour que tous les jours, eh bien, on prenne conscience que chacun de nous a un rôle à jouer dans cette société et que voilà, on doit faire notre route avec les autres. Merci mille fois, Louisa, pour votre appel et votre témoignage au 3921. Dans quelques instants, nous serons avec Jacques Mallet. Il est président de l'Institut Recherche et Solidarité et auteur de l'enquête La France bénévole.
Et Francky nous écrit sur Facebook, quand on s'engage dans une association, c'est vraiment pour aider, pour secouer. C'est ce qui l'a motivé. Je ne me vois pas m'investir si je ne suis pas impliqué totalement, moralement. Et Francky est bénévole depuis 10 ans dans l'association La Mythe Pain à Paris.
Europe 1.
Comme Louisa, comme Francky qui nous a écrit sur Facebook, vous donnez de votre temps pour aider les autres et vous témoignez au 3921. Qu'est-ce qui a motivé votre engagement? Vous liez également sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Vous êtes avec Olivier Delacroix sur Europe 1, le 3921, pour nous appeler et nous dire pourquoi vous avez décidé de vous engager pour les autres. C'est votre quotidien professionnel ou alors vous êtes impliqué dans une association. On vous écoute jusqu'à 16h.
Et nous sommes maintenant en ligne avec Jacques Mallet, président de l'Institut Recherche et Solidarité et co-auteur de l'enquête La France bénévole. Bonjour monsieur, merci d'être avec nous sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour Olivier.
Bonjour. Vous avez publié votre enquête en 2009. Vous y avez interrogé 10 000 acteurs du milieu du bénévolat pour connaître leur motivation, leur satisfaction, leur déception et aussi leur attente. Si vous deviez résumer le profil de ces personnes, que me diriez-vous ?
Alors c'est une enquête que nous publions chaque année et qui se révèle toujours aussi intéressante. Pour résumer, ce sont des personnes qui veulent être utiles. Ce sont des personnes qui veulent soutenir une cause, oui. Mais aussi ce sont des personnes qui s'y retrouvent. Comme Louisa le disait, il y a de la reconnaissance, il y a de l'épanouissement personnel, il y a aussi de l'acquisition de compétences, un travail en équipe, des rencontres et du plaisir. Donc c'est un équilibre entre le dévouement et le retour sur investissement.
Le prix Solidarité version féminin récompense chaque année l'action d'associations et l'engagement des femmes qui les représentent en France. Est-ce que les femmes sont plus enclines à s'engager que les hommes? Sont-elles plus présentes sur le terrain associatif notamment?
Il y a une parité absolue, c'est-à-dire que les femmes s'engagent peut-être un petit peu plus dans le domaine social, peut-être un petit peu plus dans le bénévolat de proximité, parfois informel. Les hommes s'engageront peut-être un peu plus pour l'enseignement, pour le sport, pour la culture, mais il y a une belle parité. Aujourd'hui, un Français sur quatre, c'est-à-dire 13 millions de personnes, sont bénévoles dans une association. C'est très très important et très encourageant.
Est-on nécessairement altruiste, militant, quand on s'engage pour l'autre?
Bien sûr, il y a ce que j'appellerais un moteur principal, c'est-à-dire il faut penser aux autres. D'ailleurs, vous dites s'engager pour les autres, je préciserai s'engager pour les autres ou bien s'engager avec les autres. C'est-à-dire qu'on n'est pas tout seul et on travaille en équipe et c'est réconfortant et c'est sympa. Il y a un moteur principal qui est évidemment l'altruisme, mais il y a aussi un moteur, un deuxième moteur qui est le plaisir, la reconnaissance, l'épanouissement personnel, comme je le disais. Pour aller loin, il faut que ce soit équilibré. Il faut que les deux types de motivation puissent être satisfaits.
Sur la page Facebook d'Europe 1, une auditrice ancienne éducatrice nous dit « Il faut rester sa propre priorité et il ne faut pas que cet engagement soit engloutissant ». Comment ne pas s'oublier quand on est engagé, comme certains le sont ?
Il faut effectivement trouver un équilibre entre ce qu'on appelle les motivations pour les autres et les motivations pour soi. C'est très important et je pense que dans les associations, de plus en plus, le bénévolat est soutenu, accompagné, guidé, conseillé. Et les responsables des associations veillent effectivement à ce que les bénévoles ne s'oublient pas, pour qu'ils trouvent leur compte et qu'ils durent, qu'ils restent fidèles à l'association et à la cause qu'ils défendent.
Ça n'est pas toujours facile. Ça me rappelle, lors d'une émission que nous avons fait il y a quelques semaines, le témoignage d'une femme qui s'engageait pour les jeunes mineurs qui étaient un peu perdus dans les rues de Paris en ce moment et qui disait qu'il était difficile de couper à un moment avec la petite dont elle s'occupait. Donc, il est sûr que ça doit être difficile de faire la part des choses. On a vu le témoignage de Louisa d'ailleurs en début d'émission, que l'engagement prend parfois tellement de temps que l'on est obligé de quitter son travail. Est-ce qu'il existe des aides, des structures qui peuvent permettre d'être à 100% dans l'engagement ?
C'est difficile. C'est difficile et ça peut être un peu dangereux. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, ce qu'on appelle les parcours bénévoles peuvent être faits de missions extrêmement prenante, notamment dans le secteur social, lorsqu'on aide les personnes en grande difficulté, oui. Et d'autres missions, non pas pour se reposer, mais pour varier les plaisirs, mmh. Par exemple dans la culture, dans l'environnement, dans le sport. Il y a mille et une façons d'être utile avec les autres et pour les autres. Et c'est vrai que les parcours bénévoles sont aujourd'hui des parcours très enrichissants, parce que ce que vous avez pu apprendre dans le cadre d'une association et dans un secteur donné, vous allez pouvoir le redonner et l'appliquer dans un autre secteur. Entre guillemets, cette mobilité du bénévole qui se développe de plus en plus, qui n'est pas du tout facile à gérer pour les associations, ouais, ouais. Bien sûr, mm-hmm. Mais c'est enrichissant et c'est extrêmement épanouissant. Mm-hmm. Épanouissant.
Jacques Mallet, restez en ligne avec nous. Je rappelle que vous êtes président de l'Institut Recherche et Solidarité et co-auteur de l'enquête La France bénévole. Dans quelques instants, nous allons accueillir Anthony, à seulement 22 ans. Cela fait déjà 7 ans qu'il est pompier volontaire et vous allez pouvoir échanger ensemble.
Europe 1. Ni héros ni saint, mais vous avez décidé de venir en aide aux autres. Venez discuter avec Olivier Delacroix, nous raconter votre expérience et votre histoire au 39-21. Vous vous êtes engagé pour aider les autres. En quoi est-ce important pour vous et comment cet engagement fait partie de votre vie? Vous nous racontez au 39-21, vous êtes avec Olivier Delacroix.
Et en voilà un qui s'est engagé depuis un bout de temps, le Père Noël.
Bah oui.
Hein, au service des autres. Parce
la
que
nuit des temps même.
Il est déjà au boulot là, parce que lundi, j'en connais plus d'un
qui vont attendre la
qui vont
la
attendre bah, le lendemain matin surtout, hein, puisque ça sera mardi matin que le Père Noël sera
oui.
passé. Nous sommes maintenant en ligne avec Anthony. Bonjour Anthony, soyez le bienvenu sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour, merci bien.
Bonjour. Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous?
Alors j'ai 22 ans et j'appelle de l'Aube.
De l'Aube. Alors vous, Anthony, bonsoir. Vous avez commencé à être pompier volontaire à l'âge de 15 ans. Ça vous est venu d'où? C'est une vocation, on peut parler de ça?
Oui, bah je pense que oui, c'est une passion qui est née depuis tout petit comme beaucoup de pompiers.
Ouais.
Et qui a été concrétisée par la suite avec à partir de 12 ans, je suis rentré dans une école de jeunes sapeurs-pompiers, donc ils nous apprennent le métier de pompier, ouais. Mmh. Soit du secours à personne ou jusqu'à l'incendie. Mmh. Donc 4 ans de formation. Et donc je suis sorti à l'âge de 16 ans où je suis rentré après en tant que pompier volontaire.
D'accord.
Donc c'est vraiment une passion qui est née et qui est continué par la suite.
D'accord. En quoi ça consiste d'être pompier volontaire?
Ça consiste à donner de son temps personnel pour pouvoir venir en aide aux autres,
ouais.
Que ce soit sur du simple secours à personne, des opérations diverses, même de l'incendie.
Mmh.
Et puis c'est aussi une valorisation de soi-même.
Mmh. Si je vous pose cette question, c'est bien évidemment parce que vous avez un travail à côté. C'est bien ça, être pompier volontaire, c'est en plus de son travail, apporter de son temps pour les autres.
Voilà, c'est ça. C'est en plus de notre travail qu'on fait la journée ou quoi que ce soit, sur notre temps libre, le temps qu'on peut passer en famille, avec nos copines ou quoi que ce soit.
Mmh.
C'est du temps qu'on prend pour pouvoir être disponible, pour pouvoir partir en intervention à n'importe quel moment.
Et c'est surtout, comme vous l'évoquez, du temps où vous pouvez être appelé à n'importe quel moment de la journée. Cela a déjà posé problème dans votre vie sociale, familiale ou amoureuse?
Moi, pas spécialement. C'est vrai que j'ai de la chance parce que j'ai une famille qui me soutient à 100%.
Oui.
J'ai ma copine qui est pareil, qui me soutient vraiment à 100%. Après, c'est vrai que j'ai eu des copines auparavant qui ont eu du mal avec ça. C'est pour ça que d'ailleurs, ça n'a pas marché.
Mmh.
Mais c'est vrai que jusqu'à maintenant, ça, j'ai eu beaucoup de chance avec ma copine actuelle. Ça fait 3 ans et ça fait 3 ans qu'elle me soutient à 100%.
Mmh. Parce que j'ai le souvenir, lors des attentats du 13 novembre, il y a déjà quelques années, les pompiers volontaires, eux aussi, ont été appelés ce soir-là.
C'est vrai que lors des attentats, c'était vraiment un dispositif assez exceptionnel,
ouais.
Que ce soit en tant que pompier de Paris, donc qui est militaire, ou avec les pompiers professionnels ou même volontaires,
mmh.
C'est qu'on est tous de toute façon, on a tous la même formation, on est formés pareil, c'est juste le statut qui change. Et donc du coup, on a tous été appelés, et c'est vrai que les missions sont...
Elles peuvent être dangereuses, ces missions.
Danger. Voilà, c'est ça. Mmh. Il y a certaines missions qui sont dangereuses, après on essaye d'être formés au mieux, on essaye de nous former au mieux au niveau des services départementaux d'incendie de secours pour pouvoir répondre à ces missions. Surtout depuis les attentats, où vraiment il y a une demande spécifique de la part des services pour qu'on travaille vraiment tous ensemble et en étant protégés par les services de gendarmerie ou de police.
Et les missions sont les mêmes que les pompiers militaires ou professionnels? Quand on est pompier volontaire, on est pompier à 100%. Il n'y a pas de différence avec les autres?
Voilà, c'est ça. Les missions sont exactement les mêmes. On peut faire du secours à personne, de l'incendie, de l'opération diverse, donc ça va de des assèchements de locaux jusqu'à des nids de d'hyménoptères, ou on peut même faire des risques technologiques, chimiques aussi. C'est vraiment varié et c'est les mêmes pour tout le monde. Mmh.
Qu'est-ce que vous faites comme métier aujourd'hui, Anthony ?
Je travaille en tant que logisticien dans un magasin.
D'accord, très bien. Mais écoutez, merci beaucoup pour votre témoignage aujourd'hui sur Europe 1. Et puis, bonne fête à vous. Dans quelques instants, nous serons avec Ghislain. Il était parmi les initiateurs en 1989 de Solancy, une association qui soutient les enfants atteints par le virus du sida et leurs familles.
Vous composez chaque après-midi le 39-21 pour échanger avec Olivier Delacroix sur Europe 1. À propos de votre engagement aujourd'hui, quelles ont été vos motivations ? Combien de temps consacrez-vous aux autres ? On lit vos messages sur Twitter, hashtag Europe 1 aussi.
Et nous sommes désormais en ligne avec Ghislain. Bonjour, soyez le bienvenu sur l'antenne d'Europe 1, Ghislain.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Bonjour à tout le monde.
Bonjour. Vous êtes aujourd'hui vice-président de l'association Solancy, mais vous étiez là dès sa création en 1989. Sous quelle impulsion cette association a-t-elle été créée ?
En réalité, initialement, c'était un groupe de réflexion, ça s'appelait, c'était sur Marseille, hein. Ouais. Il y avait un groupe qui travaillait aussi sur Paris, ça s'appelait le GIRAS, le groupe interprofessionnel de recherche action SIDA ouais. Toxico. Mmh. Et moi, je suis éducateur spécialisé de formation. J'intervenais auprès des mères et enfants victimes de violences conjugales. Mmh. Et on a été confrontés à, hélas, plusieurs situations. À l'époque, l'aide sociale à l'enfance, c'était le conseil général, donc départemental plutôt, qui, suite à l'hospitalisation d'une maman, opération, complications dans le traitement liées au VIH, hein, tout ça, il y avait un placement systématiquement des enfants. Et nous, on ne comprenait pas, puisque ce placement, il durait, ça pouvait aller jusqu'à 6 mois de placement. Mmh. C'était dans les années 90. Et face à ça, on s'est dit, mais c'est juste pas possible, quoi. Pourquoi casser ce lien mère-enfant ? On sait pertinemment que ce lien, il est primordial sur toute relation. Et donc, on s'est mis à plusieurs à réfléchir. On était une vingtaine, on a réfléchi à ça. On a eu 2 années de réflexion, 1 année de création. Et puis, Solancy est sorti un petit peu. À Paris, ça a été à peu près la même procédure. Mmh.
En quoi consiste votre engagement aujourd'hui que Solancy existe maintenant et continue son action comment il se matérialise votre engagement ?
Alors aujourd'hui, moi je sors d'une période un petit peu particulière. J'ai été atteint d'un cancer mm-hmm. dont je suis en train de me débarrasser gentiment. Ouais. J'ai repris un petit peu tout ce qui était bénévolat. C'est-à-dire que je pouvais être aussi bien le Père Noël dans cette période. C'était très bien, je me rappelle plein de bons moments.
C'est déjà pas mal.
Père Noël, mmh. Que l'électricien de service ou la personne qui allait chercher l'aide alimentaire à la banque, il y avait plein d'initiatives. Au tout début de l'association, ça a été particulièrement compliqué. On a fait beaucoup d'accompagnement d'enfants en fin de vie. Ouais. Et ça a été chaud. Ouais, ouais. La chance, peut-être, qu'on avait sur Marseille, on était beaucoup de travailleurs sociaux. Mmh. Il y avait pas mal de psy, il y avait des instituts. C'était tout un tissu social et associatif qui était quand même impliqué dans tout ce qui était médico-social. Et on a vraiment eu cette chance, puisque les personnes que je ne connaissais pas bien avant, bien sûr, hein, mmh. Toutes les personnes avaient donc un passif associatif et dans le médico-social.
Mmh. Et comme dans le Nord, à Marseille, le tissu associatif est très important. Hein.
Il est bien structuré, même si actuellement le tissu associatif est en train de se déliter grâce à l'intervention pas spécialement bénéfique du gouvernement, quel qu'il soit, hein, que ce soit celui-ci ou le précédent, voire le précédent. Mm-hmm. Je crois qu'on a mis, beaucoup de vigueur à détériorer le tissu associatif.
Étonnamment d'ailleurs, parce qu'on en a pourtant beaucoup entendu parler pendant la campagne présidentielle, justement des bénéfices de ce tissu associatif si important pour notre pays. Et puis il est vrai que c'est quelque chose qui revient régulièrement dans les propos de ceux qui témoignent aujourd'hui, c'est qu'on a de plus en plus de mal au cœur des associations à bénéficier de l'aide. Vous diriez quoi de votre engagement ? Que c'est une vocation ? Que c'est une évidence ? Que c'est un besoin même ?
Moi, je pense que c'est une évidence, une vocation, non. Je pense que ma vocation, c'était d'être dans la relation d'aide avec l'autre. C'était plutôt ça, ma vocation. Donc, en tant qu'éducateur, oui, il n'y a pas de problème là-dessus. Un besoin, sûrement, parce que je pense que dans cette relation d'aide, et pour toute relation d'aide, il faut être deux. Et ce qu'on donne, on récupère deux fois plus, quoi. Je trouve ça vraiment phénoménal. Tout ce que j'ai pu vivre et récupérer de la part des personnes, c'était vraiment quelque chose de fabuleux, en tout cas.
Ça, nous concernant. Vous confirmez ça, hein, que
tout à fait. Ouais, tout à fait,
qu'on reçoit deux fois plus. Voilà un des arguments qui pourra faire mouche chez ceux qui se posent encore la question de savoir s'ils doivent s'engager ou non, parce qu'il est vrai que quand on s'engage et qu'on donne souvent dans les yeux de ces femmes, de ces enfants, de ces familles qu'on aide, on reçoit souvent beaucoup plus que ce que l'on a donné. Merci mille fois pour votre témoignage au 3921, Ghislain. Dans quelques instants, on va parler du Secours populaire et de l'engagement de Serge qui y est depuis quelques temps.
Vous avez décidé de consacrer un bout de votre temps pour aider les autres. Vous échangez cet après-midi avec Olivier Delacroix.
Et nous sommes maintenant en ligne avec Serge qui nous appelle de Lille. Bonjour Serge.
Bonjour Olivier.
Comment allez-vous ?
Je vais très très bien.
Bon.
Je vais très très bien. En plein boom, je suis sorti deux minutes pour pouvoir vous parler un peu.
Alors en plein boom de quoi ? Avec le Secours populaire ?
Avec le Secours populaire, aujourd'hui, comme souvent en fin de mois, c'est notre distribution alimentaire mensuelle.
Oui.
C'est-à-dire que les gens viennent et contre un chéquier qui coûte à peu près 13 euros, ils repartent avec l'équivalent d'un gros caddie, je dirais, de marchandises alimentaires, produits de base qui sont composés à 50% de produits de dons européens et 50% de produits que nous achetons auprès des entreprises.
Mmh. Alors, j'avais une question à vous poser qui peut paraître un peu naïve comme ça, mais pour tous ceux qui ont envie de s'engager et qui ne savent pas comment faire, comment rejoindre le Secours populaire, est-ce que c'est facile de venir vous donner un coup de main et de s'engager aujourd'hui ?
Alors, c'est fort, fort simple. C'est fort, fort simple. Vous prenez contact avec l'antenne départementale, puisqu'on est, régi en association nationale. Ensuite, dans chaque département, il y a ce qu'on appelle une fédération. Moi, je dépends de la Fédération du Nord.
Oui.
Et dans chaque fédération, il y a environ entre 30 et 70 comités. Bon, on est dans le Nord, c'est une grosse, grosse fédération, si ce n'est la plus grosse de France.
Mmh.
Et nous sommes présents dans 79 communes du département du Nord.
Mmh.
Donc forcément, pas loin de chez vous, il y a forcément un comité du Secours populaire. Venez nous voir, prenez contact avec nous, et si jamais vous n'avez pas ces adresses-là, appelez directement la Fédération du Nord, rue Cabanis à Lille, prenez contact avec nous, vous serez redirigé vers un comité et on vous accueillera avec plaisir, parce qu'on a vraiment, vraiment besoin de bras et de cerveau aussi.
Mmh.
Et de cerveau.
Cet engagement, Serge, à 70 ans aujourd'hui, il répond à quoi exactement ?
Tout simplement, sans doute, je devais être bénévole et solidaire sans le savoir, un petit peu comme M. Jourdain faisait de la prose, lui, sans le savoir.
Mm-hmm.
Je me suis rendu compte lorsque j'ai dû partir en retraite, à 60 ans, je ne me voyais pas bien devant la télé à manger des chiffres. Je me suis dit, il faut que je m'engage sur quelque chose. J'ai rencontré un peu par hasard les gens du Secours populaire et puis j'ai décidé de m'investir avec eux. Et en faisant un retour en arrière sur mon passé, entre guillemets, je me suis rendu compte que j'ai toujours été dans le bénévolat sans même m'en rendre compte. J'étais moniteur de tennis, j'étais prof de judo, bénévole, et tout compte fait, je faisais déjà des actions caritatives sous une autre forme.
Mmh.
Et là, j'ai décidé de m'engager vraiment avec le Secours populaire. Et la raison fondamentale pour laquelle je l'ai faite, c'est relativement simple, c'est que la vie a été vachement généreuse avec moi. Je suis un 68-heure, hein, j'avais 20 ans, mais 68.
Ouais.
La vie a été très généreuse avec moi. On a connu une période sans guerre, sans grosses difficultés de boulot. Il y avait du travail partout. J'ai la chance, à 70 ans, d'être encore en pleine forme. Je vais au golf, je fais du footing. Tout va bien pour moi. Et je me dis, la vie était sympa avec moi. Peut-être qu'il faudrait que je rende une partie de ce que j'ai reçu.
Mmh.
Donc, ma façon à moi, dans ma vie perso, de rendre une façon de ce que j'ai reçu, c'est d'intervenir dans des actions du Secours populaire.
Et alors, ça se passe comment, en fait ? C'est à cette époque, plus de fêtes de fin d'année, que vous intervenez, ou c'est durant toute l'année ?
Alors, c'est un gros pic d'activité le mois de décembre, effectivement,
ouais,
puisqu'on est en pleine période de fêtes, comme tout le monde le sait maintenant. Donc, c'est un gros pic d'activité. Mais la particularité du Secours populaire, c'est d'être présent 12 mois sur 12, y compris pendant le mois d'août, on est présent. Nos comités sont ouverts en été, en hiver.
Ouais.
On intervient bien sûr sur de l'aide alimentaire, mais également vestimentaire. On a un truc qui est absolument génial, qui s'appelle la JOV, la journée des oubliés des vacances.
Oui,
et tous les ans,
les
on a décidé d'emmener les gamins au moins un jour en vacances. Cette année, c'était Astérix. L'année prochaine, ce sera au bord de la mer. Voilà, chaque département gère ça vraiment très très bien. On s'occupe de culture, de sorties culturelles, de sorties sportives. On a dans le Nord, par exemple, le Zénith de la Solidarité en février qui va réunir plus de 5000 personnes au Zénith de Lille. Les gens vont venir pendant 5 heures voir un spectacle, des artistes sur scène. Voilà, on n'intervient pas. J'ai coutume de dire qu'on est un petit peu des généralistes de la solidarité. On n'est pas des grands spécialistes pour la remise en route des gens sur de la formation et des choses comme ça. Peut-être qu'on va se faire aider par d'autres assos, mais on est des généralistes comme le médecin généraliste. Et quand on a un petit souci, bon, on va voir son médecin généraliste d'abord. Ils viennent d'abord chez nous. Et ce qu'on peut nous pas faire, ben, on les redirige vers des associations qui sont un petit peu plus spécialisées que nous on l'est.
Et comme Jacques Mallet nous le disait tout à l'heure, ou comme Ghislain, vous me confirmez que quand on donne, on reçoit beaucoup?
Si vous saviez, Olivier, je dis jamais ça sans émotion et ça me reprend maintenant encore à la gorge en vous parlant. Moi, tous les matins, quand je me lève, je sais pourquoi je me lève. Je sais que des tas de gens m'attendent. Je reçois bien plus que ce que je donne en réalité. Je passe 30-40 heures par semaine au Secours Pop avec des bénéficiaires. Je m'occupe des relations avec les entreprises pour le Secours Populaire, pour monter des partenariats, des échanges, etc. Mais je reçois tous les jours de nos bénéficiaires et de nos bénévoles, parce que la particularité aussi au Secours Populaire, c'est que pratiquement 50% de nos bénévoles
oui.
sont également des bénéficiaires. Donc des gens qui sont aidés et qui disent « moi, je vais aussi donner un coup de main aux autres ». Ce qui prouve que quelle que soit sa situation personnelle, on peut toujours aider les autres, on peut participer à la solidarité et ça, c'est merveilleux.
Eh bien écoutez, je vais vous dire, vous écoutez Serge du haut de vos 70 ans dire quel bonheur est-ce de s'engager et de donner et de recevoir. Ça donne la pêche aujourd'hui, encore aujourd'hui. Et je vous remercie mille fois pour votre engagement et votre témoignage au 39-21. Et bon vent à Lille, à tous nos amis du Secours Populaire. Merci Serge, merci aussi à Louisa, à Jacques Mallet, à Anthony et à Guilin de nous avoir appelés. C'est la fin de cette émission. S'engager, c'est être utile, on l'a vu, cela donne du sens à sa vie et nourrit certaines valeurs. Car croyez-moi, en s'engageant, on apprend aussi sur soi à travers l'autre. Pour beaucoup, s'engager est une évidence. Si vous voulez vous engager vous aussi, n'hésitez pas à contacter France Bénévolat qui saura vous guider dans vos recherches. Et dans la version féminin de cette semaine, vous retrouverez Louisa que nous avons eue en début d'émission et que les autres lauréates 2018 du prix Solidarité version féminin dont nous sommes tous partenaires aussi. Donc dans ce numéro de version féminin de cette semaine, vous les retrouverez toutes et puis vous connaîtrez mieux Louisa que nous avons eue en début d'émission. Vous pourrez continuer à en discuter.
Bien sûr, vous nous écrivez sur Facebook via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. Vous échangez entre vous, hein, ce sont vos sujets. Et puis il y a également Instagram, Olivier Delacroix officiel.
Europe 1.
Demain, nous parlerons ensemble des nounous. Elles nous ont gardé enfants et c'est à elles que l'on confie ensuite les nôtres. Quelle place ont les nounous dans nos vies? Si vous avez été élevé par votre nounou, si c'est mal passé avec votre nounou ou qu'au contraire, il ou elle est un véritable membre de la famille, ou en tout cas qu'il est devenu important pour vous, n'hésitez pas à venir nous raconter votre histoire au 39-21. Ma chère Ambline, j'ai été ravie de passer cette heure avec vous.
Également, à demain.
À demain, 15h.